Les vraies voix Sud Radio.
Les vraies voix sur Sud Radio qui piaffent d'impatience, hein, comme à peu près tous les Français, malgré la pluie, à l'approche de la réouverture, on va le dire, de la meilleure moitié de la France. Philippe Bilger est avec nous sur Sud Radio. Bonsoir à vous, mon cher Philippe.
Bonsoir, Jean-Marie.
Vos derniers instants de confinement, presque. Hein, vous êtes à distance, en direct sur Sud Radio, voilà. En duplex. Voilà. Magistrat honoraire, président de l'Institut de la Parole, Jean-Luc Touly nous a rejoint. Ça faisait longtemps d'ailleurs. Bonsoir à vous, Jean-Luc. Bien dans le micro, mon cher Jean-Luc, n'hésitez pas à vous rapprocher. C'est vrai que vous êtes grand avec le micro et petit. Ancien syndicaliste, président du FRIC, Front Républicain d'Intervention contre la Corruption. Lydia Guiroux, essayiste, va nous rejoindre dans quelques instants. Auteur du livre Assimilation, en finir avec ce tabou français. C'est publié aux éditions de l'Observatoire. Chers amis, cher Jean-Luc, cher Philippe, alors que nous restons tous plus ou moins confinés, c'est une journée un peu spéciale. Sachez-le, Philippe Bilger, c'est une journée mondiale qui met à l'honneur la moitié, Philippe Bilger, de votre emploi du temps. Les SMS, les télécommunications, c'est la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Le saviez-vous ?
Non, pas du tout.
Ça ne m'étonne pas. Combien de coups de téléphone, combien de SMS reçus et envoyés de visioconférences, nouvelles habitudes par jour pour vous, d'après vous, Philippe Bilger ?
Ah, j'ai beaucoup réduit, malgré les apparences, à la suite de certaines petites polémiques sur Twitter.
Oui.
J'ai franchement réduit durant les week-ends. Évidemment, j'éprouve le besoin de dire ce que je pense des émissions politiques. Mais par rapport à la surabondance d'il y a quelques années, je suis devenu très économe.
Vous vous êtes mis au régime, si je comprends bien. Voilà. En tout cas, sur ce plan-là, Jean-Luc Touly ?
Ben moi, dans ma ville de Vissous, dans l'Essonne, les télécommunications, ça se représente par des antennes relais, de nombreuses antennes relais sous forme de cheminées ou des antennes classiques. Et on est vraiment inondé puisque chaque opérateur veut son antenne.
Bien sûr.
Donc une petite ville avec plus de 15 antennes, sans parler des demandes qui arrivent, ça devient absolument infernal, quoi. On y parle au niveau du paysage, quoi.
En tout cas, ça gâche le paysage. Et dans votre vie quotidienne, vous pourriez vivre déconnecté ?
Ah, malheureusement, aujourd'hui, non.
Impossible.
Et toute ma famille, c'est pareil. Je suis intoxiqué.
Intoxiqué. On est tous addicts.
J'en ai conscience, mais...
Aux télécommunications, les amis, au programme des vraies voix ce soir, les élections régionales. Les candidats avaient jusqu'à midi aujourd'hui pour enregistrer leur liste avant le vote le 20 et le 27 juin. C'est dans un petit mois. Question, est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir faire campagne malgré les restrictions sanitaires ? Tiens, une campagne électorale par Zoom ou en hologramme. Est-ce que c'est possible pendant un peu plus de 4 semaines ? Deuxième débat à l'approche des réouvertures. La troisième vague qui s'annonçait absolument terrifiante, qui a été difficile, il faut bien le dire, mais cette troisième vague du coronavirus qui se termine a-t-elle été finalement moins pire que prévu ? Souvenez-vous de ces médecins justement qui demandaient à corps et à cri un confinement strict et en urgence pour au moins 2 mois face à une épidémie hors de contrôle. Notre grand débat à 18h30, Philippe Bilger, Jean-Luc Touly, les Français font de moins en moins de bébés. C'est le cri d'alarme du haut commissaire au plan François Bayrou. Est-ce qu'on peut vraiment les aider à en faire davantage des
Philippe
enfants ?
Et moi, ça va être difficile. Hein.
Mais ça peut être difficile. Vous avez peut-être
mais
des
c'est
enfants.
Pas impossible.
Là. On peut se motiver entre eux, pourquoi pas.
Mais
à tout âge, oui.
On a déjà fait notre devoir.
Vous avez déjà fait votre travail, effectivement. Mais en tout cas, on a tous besoin, tout le monde aura besoin.
Un grand bonheur.
Oui, bien sûr, mais tout le monde aura besoin d'un départ, un nouveau départ de la natalité, ne serait-ce que pour payer les retraites de tout le monde, par exemple, ou financer la sécurité sociale. On en parle à 18h30 avec un démographe. Mais tout de suite, on retient les actualités qui ont elles-mêmes retenu l'attention de nos vraies voix.
Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table.
Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste.
Je suis Darmanin.
Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent.
Le tour de table.
De l'actualité.
Vous avez sans doute retenu les Fatal Picard et puis Merde, je vote à droite, chanson à laquelle pense Philippe Bilger peut-être depuis le début, depuis sa première carte d'électeur, sans le dire évidemment en ces mots-là. Pourquoi tant de gens, c'est votre interrogation du jour, Philippe Bilger, anticipent la mort de la droite ?
Mais il faut être juste, les Républicains, ils mettent du leurre, hein, franchement. Mais j'ai été frappé, en effet, Jean-Marie, par un sondage récent, il date d'hier, enfin, il a été publié hier, qui montre qu'une majorité de Français considère que les Républicains, le parti LR, est inutile et que, en réalité, sa logique devrait le conduire à aller d'un côté vers la République en marche, de l'autre vers le Rassemblement national. Moi, je ne méconnais pas les clivages qui existent au sein des Républicains, et probablement parce que la direction des Républicains n'est pas capable d'afficher une ligne claire, éclatante et fière, en définitive, de ce que pourrait être une vraie droite. Mais je suis très intéressé par la perception de l'opinion qui, au-delà des pudeurs de chaisière, distingue deux courants très forts au sein des LR, voudrait d'une certaine manière qu'on rejoigne Marine Le Pen si on est pour une droite vigoureuse et qu'on aille vers le centrisme macronien si on aime la République en marche. Il y a parfois dans les sondages, surtout lorsqu'ils sont éclatants, dans le résultat, quelque chose qui doit faire réfléchir.
En tout cas, oui. Est-ce que la droite est condamnée à être écartelée entre le Rassemblement national, d'une part, La République en marche, d'autre part? D'ailleurs, on en reparlera avec les régionales qui approchent. Ce sera notre premier débat dans les vraies voies. Lydia Guiraud nous a rejoint justement.
Bonjour.
On parle de la droite. Vous arrivez, vous l'avez bien connue, la droite, il faut bien
je
le dire.
Je l'ai bien connue, la droite. J'aurais même été porte-parole Nicolas Sarkozy et des Républicains sous Laurent Wauquiez.
Aujourd'hui, essayiste, auteur de ce livre, L'assimilation, en finir avec ce tabou français, publié aux éditions de l'Observatoire, fine observatrice de la vie politique. Est-ce que vous voyez la droite, ou du moins ce qu'il en reste électoralement parlant, le parti Les Républicains, condamné à être écartelé entre la Macronie et le Rassemblement National, ou pas du tout?
Alors écoutez, aujourd'hui ce qu'on observe de la droite républicaine, c'est qu'elle est inaudible et assez absente du débat public, malheureusement. Et les personnalités qui font vivre la voix de la droite républicaine, que ce soit Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et d'autres, sont en fait à l'extérieur du parti.
C'est vrai.
L'état-major aujourd'hui du parti est aux abonnés absents. Et donc quand on est
absent... Jacob, on l'entend pourtant.
Bah, je trouve pas tant que ça.
Pas
ou
assez,
alors
pas,
il
pas
faut être un très fin observateur de la vie politique,
très assidu,
être journaliste politique peut-être.
Par exemple.
Voilà, mais l'ensemble des Français, je pense, font l'observation que je fais, c'est-à-dire que c'est inaudible, absent, et c'est dommage parce qu'on a on a besoin d'une droite républicaine. Les valeurs de la droite sont des valeurs qui sont plébiscitées par les Français, mais il n'y a pas d'incarnation aujourd'hui, à droite. Il n'y a pas d'idéologie claire, il n'y a pas d'idées nouvelles, il n'y a pas d'enthousiasme en réalité. Et donc, c'est vrai que la nature ayant horreur du vide, eh bien, vous avez le Rassemblement National d'un côté qui grignote, et puis vous avez Emmanuel Macron qui a lancé une OPA sur les sujets régaliens, qui sont d'habitude plutôt des sujets de la droite républicaine.
En un mot, est-ce que c'est irrémédiable pour vous, Lydia?
Ah bah aujourd'hui, pour le moment, c'est assez compliqué pour la droite de redresser la barre. Je pense qu'après les régionales, des personnalités qui vont gagner des régions, parce que ça a été de très bons présidents et présidentes de régions, que ce soit Bertrand, Pécresse ou Laurent Wauquiez...
Tous les trois favoris dans leurs trois régions, vont
revenir sur le plan national et feront entendre leur voix. Après, comment vont-ils départager le futur candidat à l'élection présidentielle? La primaire, je suis pas vraiment une grande fan de la primaire.
C'est pas votre truc. Il y a eu des précédents fâcheux, effectivement.
Exactement.
En tout cas, un précédent qui s'était mal terminé. Jean-Luc Touly, la droite vous manque ou pas? Est-ce qu'elle peut exister, respirer entre Macron et Le Pen?
D'abord, moi j'ai connu la gauche très très longtemps, et on voit dans quel état elle est. J'ai l'impression que la droite suit le même mouvement. Et ce qui me désole, je suis plutôt maintenant... certaines valeurs de droite, tout en ayant des idéaux toujours de gauche.
Vous êtes droitisé avec le temps.
Oui, et puis parce que dans ma collectivité, j'ai vu... Enfin bon, voilà, au niveau de la gestion, c'est les promesses d'un côté, la réalité de l'autre. Bon. Mais ce que je voudrais dire, c'est que les accords qu'il y a, officiels ou pas officiels, entre La République En Marche, que ce soit les personnalités ou pas de personnalités, c'est pareil... Je ne comprends pas pourquoi LR veut absolument, dans certains cas, s'allier avec un parti qui n'existe pas.
Vous parlez de la République en marche, qui n'existe pas pour vous. Après, le parti...
Il n'y a pas de militants ou c'est les anciens militants.
Si on est honnête avec les Républicains, la direction du parti est hostile à toute alliance, au moins avant le premier tour.
Mais pourquoi, Laurent Paca, on laisse faire? Pourquoi,
ils ont essayé de l'empêcher.
Vous parlez de Renaud Muselier.
Oui, mais c'est ce que vous disiez. Il n'y a pas quelqu'un qui incarne et qui a une position claire, nette et précise qui permettrait aux électeurs, j'en pense. Parce que quand les électeurs voient ça, le réflexe, c'est plutôt d'aller... Je condamne personne, mais vers le Rassemblement national.
Pour certains,
parce que c'est
oui.
la mauvaise politique. On dirait, c'est sans être péjoratif, c'est on dirait Pasqua. Vous voyez, dans les années, c'est du magouillage. On s'arrange avec les amis.
Ça a toujours existé.
Ça a toujours à gauche aussi d'ailleurs. Oui. Quand ils étaient au
pouvoir. Qu'est-ce qui est nouveau dans ce cas-là?
Pour les électeurs, je pense qu'il y aura beaucoup, de plus en plus d'abstention, parce qu'on voit bien que les préoccupations des gens sont très très loin des préoccupations. Là, je défends un candidat de LR pour les départementales, parce que mon maire, qui est remplaçant, est de divers droites. Mais j'ai du mal quand je vois que j'ai du mal à voir.
Les gens ne s'intéressent pas aux départementales, ils ne s'intéressent pas aux régionales.
Et même le parti n'a pas les moyens. Ouais. Moi, j'en fais pas partie. Je suis prêt à aider. Mais même pour avoir les affiches, c'est difficile. Vous voyez.
On va en parler.
Donc, c'est quand même invraisemblable.
On va en parler dans quelques minutes, justement, de ces régionales et des difficultés à faire campagne pour tous les partis, d'ailleurs, pendant les régionales. Philippe Bilger.
Mais le paradoxe, et je rejoins ce que nos amis ont dit, c'est qu'on a un mouvement profond dans la société de droitisation, et c'est le moment précis où le parti qui devrait représenter cette droite fière d'elle-même existe de moins en moins. Mmh. Il est assez paradoxal, comme l'a dit Jean-Luc. D'un côté, il y a le refus éthique d'aller vers le Rassemblement national. De l'autre, il y a au moins officiellement le refus de s'allier à la République en marche, mais tout ça n'aurait de sens que si le corps central de la droite existait. Et pour l'instant, il est plutôt en voie d'éliquescence.
Est-ce très que dommage. Vous pensez, Philippe Bilger, que la droite, en tout cas telle qu'on l'entend, la droite parlementaire, les Républicains, sont plus proches de l'un des deux partis qui essaient de la grignoter, la République en marche ou le Rassemblement national? C'est difficile à dire.
Ça dépend des thèmes, Jean-Marie. Ouais. Il est clair, moi j'ai toujours pensé que, en dépit de la bienséance morale avec laquelle les Républicains affirment refuser toute alliance avec le Rassemblement national, on ne peut pas dire que sur le plan de la sécurité et de la justice, en dépit de leurs protestations, il y ait un tel gouffre entre le Rassemblement national et la partie dure des Républicains Éric dans Ciotti. Ces domaines-là. Régalien, il faut... En effet, Éric Ciotti notamment. Alors sur l'Europe, sur l'euro, le Rassemblement national ne sait même pas ce qu'il pense sur ces plans-là. Et donc, je comprends que la droite n'ait pas envie de s'allier en grande partie avec une structure partisane qui est encore dans une espèce d'élaboration totalement erratique de son programme.
Lydia Guirous, en quelques mots, aucune alliance n'est possible pour les Républicains s'ils veulent survivre aussi bien à leur gauche qu'à leur droite?
Je pense qu'avant de parler des alliances pour survivre, il faut avoir des idées. Et puis, comme je vous le disais, il faut avoir une incarnation, un parti.
Un candidat.
On s'identifie au-delà du candidat.
Imaginons
mais
que Xavier
avoir
Bertrand
des...
gagne largement, sans l'aide d'Emmanuel Macron, sa
tout
région
façon,
de France. Il incarnera, enfin, il passera tout de suite pour
il
un champion de la
droite. Il incarnera une alternative. Et il incarnera, je pense, la voix de la droite républicaine. Je pense qu'aujourd'hui, il faut passer à un autre stade. Le stade, c'est d'avoir des idées, un programme aussi à proposer aux Français, avoir une équipe, parce qu'aujourd'hui, moi, je ne les vois pas sur les plateaux de télévision ou de radio. Je ne vois pas de représentants des LR. Ils sont aux abonnés absents, c'est quand même dramatique. Et pourtant, encore une fois, on a besoin d'avoir une droite républicaine dans notre pays. Ça, il en va de la santé de notre démocratie, mais aussi parce que les Français sont en accord avec ces idées qu'ils sont censés porter, et on ne doit pas laisser le champ, que ce soit à Emmanuel Macron, où on ne comprend pas toujours où il veut aller, parce qu'il y a une colonne vertébrale qui est assez souple, La République En Marche, c'est sa nature, il y a beaucoup de gens de gauche, quelques gens de droite, il y a des mots parfois de droite, mais des actions de gauche, donc il y a un flou comme ça, et les Français ne s'y retrouvent pas. Et le Rassemblement national qui reste quand même l'héritier du Front National avec un ADN assez particulier quand même, il faut le dire. Et parfois, il suffit de creuser un peu pour retrouver quelques éléments antidémocratiques. Et donc, il y a ce barrage par rapport au Front National. Et je crois aussi que, en fait, souvent on dit qu'il faut combattre le Front National, mais on n'a plus les bons arguments pour le convaincre. Et pour convaincre les Français de ne pas voter Rassemblement National, il ne faut pas le diaboliser, il ne faut pas non plus lui donner l'occasion de se victimiser. Et on est souvent avec des arguments qui sont des arguments du passé. On va parler de la mauvaise gestion des villes. Or, ils ont formé quand même leurs élus et ils sont réélus. Donc il va falloir trouver de nouveaux arguments pour pouvoir combattre ce parti et surtout ne pas diaboliser les électeurs. Les électeurs, s'ils votent Rassemblement National, c'est qu'il n'y a pas eu d'offre qui a trouvé grâce à leurs yeux. Et donc c'est à nous aussi de faire le travail.
On va reparler des difficultés de la campagne électorale, purement pratique d'ailleurs, un peu moins, à peine plus d'un mois pour faire campagne dans toutes les régions de France, aussi pour les départementales. Est-ce que les candidats vont pouvoir clairement faire campagne malgré toutes ces restrictions, justement pas de meeting géant, ça va être difficile, on en parle dans quelques instants. À suivre dans les vraies voix sur les élections régionales, vous votez, vous nous appelez, les candidats pourront-ils faire campagne malgré les restrictions? Vous votez sur le Twitter de Sud Radio, vous nous appelez au 0826 300 300. Mais avant ça, vous voulez peut-être partir en week-end grâce à Sud Radio et les hôtels Baladins, les amis. La France va respirer. Oui, le soleil va revenir un jour. On ne sait pas quand. Effectivement, les Français vont pouvoir profiter de l'été. Eh bien, si vous voulez partir en week-end grâce à Sud Radio et grâce aux hôtels Baladins, le déconfinement approche, le soleil qui revient. Sud Radio et les hôtels Baladins vous proposent une escapade au vert. Oui, à vous qui nous écoutez sur Sud Radio, dans les plus belles villes de France, où vous voulez. Vous pourrez profiter d'un moment à deux dans une chambre pour deux nuit, justement, entre amis ou en famille. Vous nous appelez 0826 300 300. Le 13e appel gagnera deux nuits dans un hôtel Baladins où il veut en France.
Les vraies voix Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio avec Jean-Luc Touly, Philippe Bilger et Lydia Guirouze. Dans quelques minutes, les débats des vraies voix. Est-ce que la campagne des régionales aura vraiment lieu malgré les restrictions sanitaires? Les listes sont déposées et enregistrées. Il ne peut pas y en avoir de nouvelles. Il ne peut plus y avoir de surprises. Et dans un mois, nous découvrirons nos nouvelles assemblées régionales. Vous votez sur le Twitter de Sud Radio. Vous nous appelez 0826 300 300. Mais avant cela, on poursuit le tour de table des informations qui ont retenu l'attention de nos vraies voix. Tout de suite, on revient avec vous, ma chère Lydia Guirouze. Vous êtes penchée sur ce drame absolument épouvantable que vous avez retenu, dont on a tous plus ou moins entendu parler. Ça s'est passé à Ivry-sur-Seine, une adolescente de 17 ans qui voulait protéger sa petite sœur qui était elle-même harcelée. Elle a été poignardée, elle est morte, pour avoir pris la défense de sa petite sœur qui était harcelée. Elle s'appelait Marjorie.
Voilà, donc Marjorie, encore une victime des réseaux sociaux, de la violence gratuite. Marjorie, elle avait 17 ans et c'est un jeune homme de 15 ans qui a été chercher un couteau de cuisine pour la poignarder mortellement. Et donc, il y a une famille qui est en deuil, comme la famille de la jeune Alicia. Souvenez-vous, c'était Alicia, il y a quelques semaines. C'était dans le Val-d'Oise à Argenteuil. Encore une histoire qui a dérivé sur les réseaux sociaux, dans la vie virtuelle, pour se transformer en drame dans la réalité, dans la vraie vie, à croire que les adolescents aujourd'hui ne savent plus faire la part des choses, à croire qu'on va laisser aussi, c'est une démission de l'ensemble de la société, ces jeunes adolescents dériver vers une violence systématique, un harcèlement en ligne qui peut se transformer en meurtre dans la vraie vie. Et je trouve que c'est une faillite globale, c'est une faillite de l'éducation au départ. C'est une faillite de l'éducation aussi à l'école. C'est une faillite de nos repères de civilisation. On ne tue pas pour un mot de travers, on ne tue pas pour un regard de travers, on ne tue pas pour une petite dispute ou une amourette. Et c'est une faillite aussi des familles et de l'autorité, parce que aujourd'hui, un jeune qui n'a pas peur des conséquences de son acte, certains diront qu'il n'en a pas conscience, mais ne pas avoir conscience à 15 ans que lorsqu'on tue quelqu'un, on vole la vie de quelqu'un d'innocent, par un coup de couteau ou en le jetant à la Seine, pour la petite Alicia, il faut le rappeler. Voilà, il y a des conséquences sont très lourdes et je crois qu'il faut absolument un sursaut de l'ensemble de la société pour qu'on puisse reprendre en main cela, parce que j'ai l'impression qu'on est en train de laisser dériver toute une partie de la jeunesse qui ne comprend plus grand chose et qui n'a plus peur de quoi que ce soit.
En tout cas, un adolescent de 14 ans a été placé en détention provisoire et mis en examen hier pour meurtre. C'est ce que nous a appris le parquet de Créteil. Il serait celui qui aurait poignardé Marjorie qui était venue défendre sa petite sœur qui était elle-même harcelée. Philippe Bidger, une violence gratuite nouvelle ou pas, vous qui êtes magistrat honoraire?
Non, je dirais, j'inscris ce drame et ce crime dans un mouvement plus général, c'est-à-dire la précocité des actes criminels dans la minorité, dans la jeunesse. Le fait que, bien sûr, ça s'inscrit globalement dans un mouvement qui montre que les crimes et les agressions contre les personnes sont de plus en plus importantes, qui montre aussi que malheureusement l'inculture aboutit trop souvent à des gestes pour se substituer aux mots qu'on n'a pas. Évidemment, on parle des réseaux sociaux, c'est un mouvement général de délitement et de décadence et d'immoralité, et qui renvoie à différentes faillites, l'école, l'éducation, mais c'est un mouvement de très longue haleine qui devra être mené si on veut espérer atténuer un tout petit peu le choc scandaleux qui pratiquement nous tombe dessus chaque jour.
Effectivement, et en tout cas, un drame absolument épouvantable. Nous continuerons d'ailleurs de vous en parler. Et c'est vrai que, alors heureusement, ça ne va pas toujours jusqu'au meurtre, heureusement, ou jusqu'aux violences, mais il y a un certain nombre, notamment d'ados, qui se retrouvent harcelés plus ou moins en masse sur des réseaux sociaux. On dit toujours les réseaux sociaux, mais certains d'entre eux. Et c'est vrai que ça peut prendre ça peut avoir des conséquences absolument épouvantables. La suite dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, c'est dans un mois à peu près, un peu plus d'un mois, les régionales. Est-ce que la campagne aura lieu? Vous votez sur le Twitter de Sud Radio, vous nous appelez 0826 300 300. Mais avant cela, bonsoir Lucette.
Oui, bonsoir Sud Radio.
Bienvenue à vous, ma chère Lucette. Vous nous appelez au 0826 300 300 depuis le Gers. Vous avez été la 13e à nous appeler. Et du coup, vous gagnez deux nuits quelque part en France, où vous voulez en fait. Grâce à Sud Radio et grâce aux hôtels Baladin. Avec qui vous voulez partir, ma chère Lucette?
Avec mon conjoint.
Ouais. Vous savez où ou pas? Vous avez une région préférée?
Absolument pas, non.
Vous allez choisir, vous allez regarder tout ça?
Oui, voilà, peut-être à Paris, je ne sais pas encore.
Alors ça, vous êtes la première personne du Gers à qui on propose de prendre un week-end au vert et qui veut partir au Gers pour aller à Paris. Je vous assure, il y a sûrement beaucoup d'autres Parisiens qui feraient bien le chemin inverse. Vous leur prêtez votre maison, ma chère Lucette?
Surtout actuellement,
pas. Absolument. En tout cas, Sud Radio et les hôtels Baladin sont ravis de vous les offrir ces deux nuits, justement, dans les hôtels Baladin, qui se réinventent, d'ailleurs, sachez-le. Écoutez tous Sud Radio, quelle que soit l'heure de la journée, d'ailleurs, dans le Grand Matin Sud Radio avec Patrick Roger et Cécile de Ménibus, dans le 10h midi de Valérie Expert, Berkov dans tous ses états, ou avec Arthur Delaborde entre midi et 14h. À tout moment, vous pouvez gagner, les amis, deux nuits dans les hôtels Baladin. On vous embrasse, Lucette.
Et moi aussi, j'embrasse tout le monde et merci beaucoup. Hein.
Merci à vous.
Les Vraies Voix Sud Radio.
Sur Les Vraies Voix Sud Radio, à l'heure du coronavirus et des gestes barrières, Philippe Bilger applique les consignes à la lettre. Il est à distance, il a choisi de se sacrifier.
Voilà.
Ce soir, jusqu'à 19h, nous sommes avec Jean-Luc Touly également et Lydia Guirousse. Alors, nos trois vraies voix vont voter, je pense, on peut le dire, aux prochaines régionales. Vous n'avez pas prévu d'aller à la pêche ce jour-là, Jean-Luc Touly?
Je serai même assesseur.
Vous serez même assesseur.
Et pour être assesseur, ça va être compliqué parce qu'il faut avoir les deux vaccins. Enfin, je les aurai parce que j'ai l'âge, mais sinon, il y en a certains. On a un problème d'assesseur. Et je ne parle pas des scrutateurs. Hein.
Un problème d'assesseur, de scrutateur, de dépouilleur, hein, c'est le mot français.
Donc je voterai pour les régionales et départementales, mais pas forcément pour les mêmes.
C'est vrai.
Mais pas pour les mêmes, forcément, mais pas forcément pour le même
parti.
Toute politique. La question est de savoir, en tout cas, s'il est possible de faire campagne, de tenir une élection dans les conditions pareilles, sans faire de meeting, par exemple, grandeur nature, de grands meetings, par exemple. Vous avez une élection très importante dans la région sud, qu'on appelait PACA auparavant. Il n'y aura pas d'énormes meetings, soit du Rassemblement National, soit de Renaud Muselier à Marseille. Comment faire campagne dans ces conditions-là? C'est la question que nous vous posons, vous qui nous écoutez sur Sud Radio. Les candidats vont-ils pouvoir faire campagne? Vous votez, vous nous appelez 0826 300 300. Corinne, bonsoir à vous.
Oui, bonjour les vraies voix.
Bonsoir. Bonjour, Corinne. Bienvenue à vous. Vous nous appelez de Chamonix au 0826 300 300. Chamonix, oh, Mont-Blanc. Chère Corinne, est-ce que vous avez le même temps que les trois quarts des Français ou pas?
Oui, alors nous, on a énormément de pluie.
Bon, mais écoutez, voilà.
Ça va aller mieux, ça va aller mieux.
Ça viendra.
Demain, ça sera mieux.
Exactement, demain est un autre jour. Est-ce que vous avez prévu d'aller voter? Est-ce que vous vous intéressez à la campagne des régionales, Corinne? Est-ce que vous pensez que les candidats puissent faire campagne avec les restrictions qui sont présentes?
Moi, j'irai voter. Hein. Je vais tout le temps voter dans toutes les élections. Moi, je pense que ça fait pas tellement de problèmes puisque on a vu M. Mélenchon qui faisait un petit meeting. On voit nos ministres qui sont tous engagés, qui sont à la télé tout le temps. Mmh. Donc, je vois pas quel est le problème plus que ça. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est ces ministres qui sont sur le terrain. Ça m'embête, par contre.
Vous parlez d'Éric Dupond-Moretti, par exemple, qui est ministre et candidat dans les Hauts-de-France. Gabriel Attal, on l'a appris aujourd'hui. Alors, dernier dans sa liste, c'est plus symbolique.
Gabriel Attal, ça me dérange pas tellement. Mmh. Mais quand, par exemple, M. Macron nous a dit que les violences aux femmes, c'était la priorité du mandat, et que Dupond-Moretti y aille, alors avec l'horreur qu'on a eue de cette dame, moi ça me retourne encore, qui a été brûlée, moi ça me...
Et vous parlez de ce drame épouvantable qui a eu lieu à Mérignac il y a quelques semaines, Sud Radio en a beaucoup parlé, Corinne.
Et deuxième cause, ça a été l'autisme et l'handicap, Madame Cluzel à Marseille, super.
Alors elle ne sera pas candidate, elle a renoncé.
Oui, non mais...
Donc elle pourra s'en occuper finalement.
Elle a tout fait pour, hein.
Ah, ouais. Elle a tout fait pour, mais elle ne l'a pas fait. Troisième... On a un plan de relance, là. On sort du Covid. On a un plan de relance. Madame Pannier-Runacher, qui est pour la réindustrialisation de la France,
se présente. De l'Industrie.
Mais ces gens-là, vous savez, on dit qu'il faut rééduquer les banlieues.
Oui.
Mais quand le haut du panier sera aussi peu que pour leur poste et leur fierté et leur pouvoir, on ne pourra pas éduquer la base. Sachez une chose, un bon patron faut des bons employés. Un bon père de famille fait une belle famille. C'est pas l'argent, je parle pas de l'argent.
Vous voulez qu'en gros, il montre l'exemple, en tout cas, au lieu de faire campagne dans n'importe quelle région.
Et oui, c'est ça qui est dommage.
Si je vous comprends bien, ma chère Corinne, parce qu'on va laisser réagir nos chères vraies voix, vous dites d'abord, il n'y a pas de problème, malgré les restrictions, pour faire campagne dans le contexte actuel. Et vous allez même plus loin, vous dites, d'ailleurs, les ministres font trop campagne, c'est presque trop facile de faire campagne en ce moment. Merci à vous, Corinne, on vous embrasse.
Allez, bonne soirée les vraies voix.
Merci. Bonne soirée, Corinne.
Et bonne soirée du côté de Chamonix. Mont-Blanc, Philippe Bilger.
Alors, en fait, je rejoins assez Corinne Jean-Marie dans la mesure, bien sûr, je n'irai pas dire que la campagne aura l'ampleur et l'importance des campagnes précédentes qui n'étaient pas soumises à ce contexte très particulier. Mais il me semble que l'important, c'est le message qu'on aura à transmettre et que lorsqu'on a un message fort sur le plan politique, on trouve toujours le moyen, quel que soit le support, pour le communiquer. Et je rejoins notamment Corinne sur la fausse bonne idée de multiplier les ministres sur les listes, parce que il faut savoir ce que veut le pouvoir. Il veut ne pas nationaliser les régionales, mais en même temps la présence absolument ostensible et parfaitement inutile des ministres sur certaines listes montre l'inverse. Donc je ne crois pas qu'on pâtira sur le plan des modalités de communication de la période, mais les messages devront être clairs et nets.
Les messages devront être clairs, justement. Est-ce que ça va brouiller le message gouvernemental aussi? Est-ce qu'il y a trop de candidats, trop de ministres candidats aussi? Ça change quelque chose.
14 ministres.
Jean-Luc.
14 ministres qui sont normalement à leur poste. Souvent, ils ont d'autres responsabilités. Mais faire une campagne, bon, évidemment, il n'y aura pas de campagne. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils... S'ils perdent,
alors, il y aura une
ils
campagne,
démissionnent.
Il n'y aura pas d'abord. Elle ressemble à quoi cette campagne? Ce sont des meetings, des reportages à la télé, à la radio, sur Sud Radio.
Il y aura des tracts qui seront distribués, des affiches, mais il n'y aura pas vraiment de grands débats.
Vous faites campagne pour un candidat, justement. Oui, vous l'avez dit au départemental. Oui. Comment vous faites? Qu'est-ce que vous faisiez d'habitude? Qu'est-ce que vous ne faites plus?
Je vais afficher déjà.
Vous connaissez des affiches. Ça n'a pas changé.
Ça n'a pas changé. Puis distribuer un petit peu une sorte de profession de foi, le programme.
À la sortie des marchés quand ils existent.
Voilà.
Par exemple.
Ils existent, mais vous faites masquer.
Oui, et surtout présenter les candidats. Parce que souvent,
et comment on fait pour les présenter si on n'est pas censé se regrouper?
C'est pour ça qu'il faut un papier avec leur photo, leur
ça,
CV.
Ça, ça existait déjà.
Oui.
Prendre le temps, beaucoup de candidats, par exemple, ou de personnel de partis politiques disaient le contact avec l'électeur, on ne l'a plus. Des élus locaux aussi le disaient, c'est plus difficile. Est-ce que c'est vrai ou idée reçue?
Il y a beaucoup d'élus locaux, d'abord, qui se présentent.
C'est vrai.
Ce qui, d'ailleurs, est à la fois peut-être une bonne chose, parce qu'ils connaissent le terrain, et en même temps, quand on est maire... cumuler éventuellement avec des... C'est toujours le problème du cumul. Moi, je suis totalement contre le cumul. Même s'il faut évidemment une présence locale pour lorsqu'on est au niveau national.
On parle souvent d'ailleurs du conseil départemental.
Mais pas cumuler
la
présidente d'un exécutif, en tout cas.
D'accord.
Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens se désintéressent totalement.
Vous pensez qu'ils ne voteront pas, en tout cas?
Moi, je pense qu'on sera peut-être même pas à 35%, avec des différences suivant les coins. Mais je voudrais dire un mot sur, quand même, par rapport à LR, à Xavier Bertrand. Mais vraiment...
Sur
les régionales. Parce que c'est quand même... c'est plus ça, à mon avis...
Vous parlez du candidat qui n'est plus membre des Républicains. D'ailleurs, il faut le rappeler, il a quitté ce parti, même s'il est toujours de droite. Il est candidat et favori à ce stade, à sa propre réélection dans les Hauts-de-France.
Les Républicains ont tout intérêt, mais vraiment être derrière lui. Parce que déjà...
On va reparler de la droite, ça passionne tout le monde aujourd'hui, la droite.
Non, mais on lui met des ministres pour, en fin de compte, qu'il soit obligé au deuxième tour... La manœuvre, elle est grossière. Et on rentre, LR rentre dans ce jeu-là, je ne comprends pas.
C'est vrai qu'on a du mal à comprendre, on a du mal, pour rester sur les Hauts-de-France, à comprendre la manœuvre d'Emmanuel Macron et de La République En Marche, envoyer des ministres. Est-ce que c'est une façon de nationaliser davantage le scrutin régional et donc de donner encore plus une envergure nationale à Xavier Bertrand, là, et lui rendre service? C'est une façon aussi de montrer qu'il y a une forme de faiblesse de La République En Marche, on envoie tellement de ministres.
Oui, ça,
et puis en plus, moi, il y a une chose que j'ai du mal à comprendre en termes de communication. On a quand même eu les gilets jaunes, donc une forme de clivage entre les Français en disant nous, on est dans la souffrance, on n'arrive pas à boucler les fins de mois, etc. On a peur de l'avenir. Et puis là, vous avez des ministres qui sont envoyés pour préparer leur propre avenir et essayer de se préparer un petit strapantin, sauf ceux qui sont en fin de liste. Et ça donne juste l'impression, alors qu'on a la crise de la Covid, on a une détresse sociale très importante dans le pays, on a l'impression, une violence. Évidemment, dans le pays, chaque jour, on a des faits divers qui sont atroces, avec les jeunes aussi qui sont très impliqués dans ces faits divers. Et on a des ministres qui, au lieu d'être dans leur dossier aux affaires, Jean-Marie, sont en campagne et ont fait des photos de ministres qui sont en train de tracter ou en train d'afficher.
Vous parlez notamment du ministre de la Justice sur un sujet.
Je trouve que c'est désastreux, que ça envoie un message désastreux à l'ensemble des Français. Comme monsieur, moi je suis pas favorable au cumul des mandats et puis surtout à cette concentration entre mandat et fonction ministérielle. Je pense qu'il faut une fonction et on se concentre sur sa fonction et on fait son job comme quand on est dans le privé, même si, bien sûr, c'est différent.
En tout cas, ministre de la Justice et candidat dans les Hauts-de-France, pour vous, c'est pas compatible, surtout en ce moment.
Et je pense qu'Emmanuel Macron fait une grossière erreur, en tout cas, ses équipes font une grossière erreur de communication, d'envoyer autant de ministres, vous avez dit 14 ministres au régional.
À des places plus ou moins importantes aussi.
Philippe Bilger. Il y a des images qui sont
désastreuses. Mais en fait, il n'y a peut-être pas besoin de chercher des ressorts très nobles, derrière tout ça, Éric Dupond-Moretti dit à la fois que son combat central, c'est d'abattre Marine Le Pen, et on se demande alors pourquoi il est garde des Sceaux. Mais à l'égard de Xavier Bertrand, Jean-Luc, la manœuvre est toute simple en réalité. Imaginons que au second tour, La République En Marche, pour coincer Xavier Bertrand, demande de voter pour lui. Elle s'imagine qu'elle le tiendra. Mais tout dépend évidemment du score et de l'écart. C'est d'une manœuvre horriblement politicienne. Si jamais on croyait au Nouveau Monde, il est là de moins en moins.
Alors, vous citiez Éric Dupond-Moretti sur son combat pour le Rassemblement National. Je crois que ces mots exacts, ce sont « je vais chasser le Rassemblement National dans la région des Hauts-de-France ». Abattre le Rassemblement National, c'est les mots d'une autre députée, d'une députée.
Oui, mais attendez, Jean-Marie, il a dit également,
ça peut arriver.
Je sais que vous faites un inventaire très scrupuleux des propos d'Éric Dupond-Moretti, mais
L'esprit était là. Quoi qu'il en soit, chers amis, nous vous posions cette question sur le Twitter de Sud Radio. Les candidats vont-ils pouvoir faire campagne malgré les restrictions? Vous êtes plutôt optimiste, il faut bien le dire, puisque vous répondez oui à 71% d'entre vous sur le Twitter de Sud Radio. Et d'ailleurs, on le voit, la campagne est bien lancée. Hein. Tout de suite, le deuxième débat des vraies voix.
Les vraies voix Sud Radio.
Nos hôpitaux sont malades. Pas de médicaments, pas d'équipements.
Vous entendez une des nombreuses chansons des mouvements des personnels de santé, notamment des personnels hospitaliers, il faut bien le dire, soumis à rude épreuve depuis plus d'un an avec la première, la deuxième et la troisième vague de coronavirus. Nous sortons à peine de cette troisième vague, les chiffres sont un peu encourageants. Le nombre de contaminations a tendance à baisser assez drastiquement, le taux d'incidence a commencé à baisser, la pression hospitalière, notamment sur les services de réanimation, a tendance à baisser. Mais souvenez-vous, c'était il y a à peu près 2 mois. Nous n'étions pas encore confinés. Emmanuel Macron, a priori, gagnait du temps avant de reconfiner, tout comme Jean Castex. Et un certain nombre de médecins s'alarmaient de l'explosion incontrôlable de cette troisième vague et de l'épidémie de coronavirus. Exemple, le 25 mars dernier, avec Philippe Juvin, le chef du service des urgences du principal hôpital, du grand hôpital de France.
Ben je crains, et Dieu sait que nous sommes, comme tout le monde, crevé et usé, et que nous ne voulons pas être confinés, mais il ne reste que quoi ? Il ne reste qu'un confinement strict comme solution, si on veut pouvoir continuer à traiter et les Covid et les non-Covid. C'est ça le sujet. Une situation qu'on a laissée se dégrader depuis début décembre, en fait, quand vous regardez, la courbe ne fait qu'augmenter imperceptiblement, mais constamment depuis décembre. À partir du moment où on a laissé le truc prospérer sans prendre de décision, on arrive dans une situation critique.
C'était Philippe Juvin, chef du service des urgences de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Cette question que nous vous posons dans les vraies voix sur Sud Radio, la troisième vague a-t-elle finalement été moins pire que prévu ? Est-ce que la catastrophe tant annoncée ne s'est finalement pas produite ? Et est-ce que l'hôpital a tenu ? Pour l'instant, vous répondez oui à 74% d'entre vous, 0826-300-300. Julien nous appelle de l'Essonne. Bonsoir à vous, Julien.
Bonsoir à tous.
Professionnel de santé, Julien, je crois.
Oui, tout à fait. Je suis aide-soignant en réanimation. Effectivement, la troisième vague a été beaucoup moindre en termes d'impact sur les réanimations. Par contre, la population était un petit peu plus jeune, d'une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'en fait, on va dire que ça commençait, au lieu de commencer à 70 ans, ça commençait à 60-50 ans, quoi, à peu près.
C'est ça.
Mais moi, j'aurais une question sur ce que vous venez de dire. C'est juste les médecins, la liste des médecins pessimistes qui disaient « Oh là là, mais on va tous mourir ». C'était des docteurs en philosophie, parce que en fait, n'importe quel médecin bien fondé va vous dire que vaut mieux être dehors qu'être confiné en intérieur. C'est une règle de base. Le taux d'infection en extérieur est de 0,1%. Je pense que on peut pas être plus safe qu'en étant à l'extérieur.
Il ne se prononçait pas forcément là-dessus, Julien. Ce qu'il disait, en gros, c'est qu'il fallait limiter le plus possible, quel que soit le modus operandi, les interactions sociales, un peu comme lors du premier confinement.
D'accord, je trouve ça très, très bien de préciser. Et je préciserai quand même que là, vous avez cité le professeur Juvin,
oui.
Qui est donc effectivement directeur des urgences de l'HEGP, donc l'hôpital européen Georges Pompidou. Mais on oublie beaucoup de préciser, et ça c'est dommage, ça fait un gros manque
qu'il
de transparence.
Qu'il était élu, oui, effectivement aussi.
Il est élu député maire des Républicains à la Garenne-Colombes, et il est aussi, surtout, et ça on ne le dit jamais, il est directeur général adjoint de Sanofi Pasteur. Donc j'ai l'impression qu'il y a un peu des conflits d'intérêts là-dedans qui ne se disent pas, mais qui sont un peu quand même à fouter.
Alors, deux ou trois choses. D'abord, on l'a déjà reçu, Philippe Juvin, sur Sud Radio, mon cher Julien. C'est vrai que, aussi, d'abord, on présente toujours... Là, je crois que c'est la première fois où je ne présente pas son étiquette politique. Ensuite, conflit d'intérêts, d'abord, c'est une accusation. Lien d'intérêt, si vous le savez, c'est que c'est public, pour le coup, ses activités professionnelles.
Oui,
ensuite, quel est son intérêt à fermer ou à ouvrir ? Il n'y a pas de vaccin à ce stade qui est sorti il n'y a pas de vaccin de Sanofi qui soit sur le marché, on va en parler dans un instant.
Bon.
En tout cas, vous confirmez, c'est important votre témoignage, Julien, c'est que vous-même, en réanimation, vous avez trouvé la troisième vague moins pire que prévu.
Nuire les vaccins des autres.
Oui. Mais en tout cas, vous avez trouvé, mon cher Julien, que la troisième vague, dans vos services de réanimation, était moins pire que les autres.
Était bien moins pire que les autres, effectivement.
On va rester sur cette bonne nouvelle, Julien. Bon courage à vous.
Merci.
Et merci à vous de nous avoir appelé au 0826-300-300. On a eu très peur avant cette troisième vague. Est-ce qu'elle a été moins pire que prévu, Philippe Bidger ?
D'abord, Jean-Marie, je rejoins ce que vous avez dit du professeur Juvin. Je ne suis pas du tout d'accord avec notre ami Julien. C'est un remarquable maire et un très grand professeur de médecine. Pour les conflits d'intérêts, j'en doute. Le deuxième élément qui renvoie directement à votre interrogation, j'ai été frappé de voir durant un certain temps, on avait l'alternative, on avait le choix entre des professeurs BA, terriblement optimistes, et de l'autre côté, des pessimistes absolus, genre le professeur Pialou, dont on avait l'impression que la seule ambition était de nous plomber le moral, et parfois il y parvenait, il faut être juste assez bien. Donc aujourd'hui, on a tout de même, me semble-t-il, à cause de cette impression de libération qu'on a, d'amélioration, peut-être des paroles plus mesurées, plus équilibrées.
Et que le pire n'a pas forcément eu lieu, bien que ça ait été difficile.
Absolument.
Lydia.
Effectivement, il y avait beaucoup de médecins, de professeurs de médecine, de professionnels de santé qui ont eu accès aux médias et qui n'avaient qu'un mot à la bouche, en tout cas qu'une solution à la bouche, c'était confinement, confinement, confinement strict. Sinon, la plus grande des catastrophes allait arriver et il y aurait des dizaines de centaines de
juste
milliers
pour être équitable
de
aussi.
Morts.
Je vous ai donné à entendre le professeur Juvin, c'était pas forcément le.
C'était pas le seul.
Hein. D'une part et d'autre part, c'était pas celui qui appelait aux restrictions les pires. En tout cas, il s'inquiétait de la montée de la troisième vague.
Voilà, donc il y avait cette tendance, c'est une partie de ces médecins à ne proposer que d'enfermer tout le monde et avoir une vision extrêmement pessimiste. Et c'est vrai que si le président de la République les avait écoutés, on serait confinés depuis le mois de décembre de manière très stricte. À croire qu'il n'y avait pas d'autres aspects, évidemment l'économie, la psychologie des gens, le développement des enfants. Il fallait aussi fermer les écoles. Moi, je rappelle juste qu'il n'y avait pas de consensus médical sur cette question. Il y avait aussi d'autres médecins qui pensaient qu'il ne fallait pas reconfiner, que la situation n'était pas aussi catastrophique que cela. Et cela aussi devait être entendu, je pense au professeur, au docteur Gérald Kierzek, qui est aux urgences à la PHP, et à d'autres. Donc moi, je suis très heureuse que le président de la République n'ait pas pris pari
cas,
de...
Le...
Oui, je salue sa décision.
Pour lui donner quitus.
Oui, il a pas fermé le pays, il n'a pas enfermé tout le monde et je trouve que c'était il a gagné son pari là-dessus.
Alors, Jean-Luc Toulis, en quelques mots,
je ne suis pas d'accord. Même si je reconnais que de toute façon n'importe qui à sa place aurait peut-être pas fait mieux et qu'on apprend en marchant, sans mauvais jeu de mots. Mais ce que je trouve, c'est que le plateau qui était au-dessus de 4000 hospitaliers, on est toujours au-dessus, légèrement au-dessus de 4000.
On est toujours légèrement au-dessus de 4000 personnes en réanimation.
Ça a duré très longtemps. Donc, c'est vrai. A pris un risque terrible parce que, évidemment, on n'avait pas beaucoup de lits. On avait 5000 lits. Après, on a parlé un petit peu plus. Quand je vois qu'en Allemagne, on en a plus de 20 000. Donc, je trouve que ça n'a pas été anticipé. Que peut-être il fallait, mais c'est facile de le dire après coup, de faire un confinement peut-être très strict dès le mois de janvier-février, pour
peut-être
éventuellement baisser le plateau peut-être à 1500, 2000, 2500. Mais bon, maintenant...
Ce qui est fait est fait.
Moi, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, les beaux jours arrivent, comme l'année dernière, donc il y a une baisse, je pense, un peu naturelle, même si on n'a pas de preuve totale là-dessus. Mais qui nous dit que lorsque, dès mercredi, la libération va se produire, d'ailleurs, elle s'est déjà un peu produite,
sur les terrasses de café.
Qu'est-ce qui va se passer ?
Vous restez donc
méfiant.
Mais
il y a un élément, c'est qu'il y a la vaccination qui est arrivée.
C'est vrai. Alors, la vaccination, là aussi, c'est
très important.
Mais attendez, juste un dernier mot, c'est qu'il faut regarder aussi à moyen terme, c'est-à-dire qu'en septembre, octobre, est-ce que on va avoir la quatrième vague ? Parce que là, rien n'est moins sûr, sans affoler.
Chaque jour suffit.
Et donc, on va vivre éternellement enfermé ?
Non,
c'est ça ?
Le mot de là, en tout cas.
Est-ce qu'on va vivre éternellement enfermé ?
C'est pas l'interrogation. Philippe Bilger était désavantagé à distance, pour conclure.
Jean-Luc, ne me dites pas que vous prenez la relève du professeur Pialou, tout de même, vous m'inquiétez.
Mais
plus sérieusement, là où peut-être on est plus optimiste que vous, c'est que on reconnaît que les débuts ont été calamiteux, mais que depuis quelque temps, il y a tout de même une amélioration sur le plan de l'efficacité.
Vous parlez de l'action gouvernementale.
Voilà. les vaccins, ils tiennent à peu près leurs engagements. Donc, on est obligé peut-être d'être un légèrement plus optimiste que vous, mon cher Jean-Luc.
En progrès, c'est le bulletin de notes que vous signez Lydia Guirous et Philippe Bilger à l'attention du gouvernement. Peut beaucoup mieux faire ou toujours mieux faire, c'est ce que vous direz vous-même. Jean-Luc Touly, les vraies voix reviennent dans un instant. Avez-vous révisé l'actualité? L'avez-vous suivi? On voit ça dans Les Rois de l'Info avec Esteban Rania.
Les vraies voix Sud Radio. Le roi de l'info.
Les vraies voix Sud Radio avec Jean-Luc Touly, Lydia Guirous, Philippe Bilger et Esteban Rania. Bonsoir à vous qui nous avez rejoints.
Bonsoir Jean-Marie, bonsoir
à
tous.
Avec vous et avec Claudine, on va jouer justement au roi de l'info. Bonsoir à vous Claudine.
Oui, bonsoir à tous.
Vous nous appelez au 0826-300-300 depuis le Gers. Vous avez choisi l'équipe de Philippe Bilger, comme beaucoup de tous ceux qui nous appellent au 0826-300-300. On vous pose trois questions, Esteban le fait. C'est vous qui répondez en premier. Esteban, c'est à vous.
Oui, Claudine, en ce 17 mai, comme chaque année, depuis 1969, on célèbre la Journée mondiale de la télécommunication. Première question, Claudine, qui a inventé le téléphone? Réponse A, Édouard Oreille. Réponse B, James Clavier. Ou réponse C, Graham Bell?
Graham Bell.
Allez.
Bravo.
Bravo, Claudine. Deuxième question. Combien reste-t-il de cabines téléphoniques qui fonctionnent en France? 10 000, 1000 ou 100?
Mm-hmm. 1000. 100.
Allez, Esteban.
Mauvaise réponse, Claudine. Philippe Bilger.
Oh, je dirais 100, même si ça paraît peu.
Et oui, bonne réponse.
100 dans toute la France, une par département, grâce à Philippe Bilger. Claudine a
Mais
déjà
Claudine
gagné.
Claudine m'a aidé, hein.
Exactement.
Bravo.
La dernière question pour le bonus et pour le plaisir pour Claudine et Esteban.
Troisième question, Claudine. Vrai ou faux? C'est Michel Drucker qui a inauguré la première transmission publique à la télévision en 1926.
Oh, alors là, elle est presque drôle. Alors là, je la valide, cette question, juste pour le principe. Ça aurait pu. On lui souhaite longue vie d'ailleurs à Michel.
Oui, enfin bon, là quand même. Oui, non, mais.
Bravo, ça fait 3-0. Claudine.
Bravo Claudine, 3-0.
3-0 Claudine, bravo à vous. Effectivement, vous n'êtes pas laissé piéger à aucun moment de ce quiz. Restez en ligne, ma chère Claudine. Le standard de Sud Radio et Zacharias vont vous retrouver. On va vous trouver un petit cadeau Sud Radio, justement, à vous envoyer.
Merci,
dans le
merci
Gers.
À tous.
Et
merci
on vous embrasse, ma chère Claudine.
Oui, moi aussi. Bonne soirée à tous.
À suivre la deuxième heure des Vraies Voix. Notre grand débat, justement. Peut-on aider les Français à faire davantage de bébés, d'enfants, relancer la natalité. On en parle dans quelques minutes. À tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio avec Philippe Bilger, magistrat honoraire, président de l'Institut de la Parole. Lydia Guirous est avec nous, essayiste, auteur de L'assimilation, un tabou français.
En finir avec ce tabou français.
En finir avec ce tabou français. Pardonnez-moi, c'est publié aux éditions de l'Observatoire. Jean-Luc Touly est avec nous également, ancien syndicaliste, président du FRIC, Front Républicain d'Intervention contre la Corruption.
Et co-auteur des requins de la fin de vie.
Oui. Hein,
concernant donc les personnes en EHPAD.
Justement. On en a beaucoup parlé, notamment
Michel Lafon.
Entre midi et 14h auprès d'Arthur Delaborde dans tous ses états aujourd'hui chez Michel Lafon, on le rappelle justement. Au programme cette semaine, chers amis, avec toutes les vraies voix, les réouvertures multiples. Tiens, question qu'on pourrait vous poser, Philippe Bilger, si je vous dis terrasse, théâtre, cinéma, magasin, musée, zoo, parc d'attractions sans attractions, quelle case cocherez-vous en priorité à la réouverture le 19?
Les trois premières, mon cher Jean-Marie.
Les trois.
Terrasse, théâtre, vous avez ajouté
cinéma
je crois.
Oui.
Voilà.
C'est ça.
Le reste, mon Dieu, je m'en passe.
Même le musée, vous vous en passez.
Oui, je ne suis pas contrairement aux apparences, je ne suis pas un cultureux absolu. Hein. Les musées, il faut les voir, mais je préfère le cinéma, les terrasses. Et comme Jack Lang, je considère que tout ça, c'est de la culture.
Voilà, vous êtes un cultureux relatif, on le dira comme ça. Lydia
voilà. Comme Philippe Bilger, écoutez, vraiment la même chose.
Théâtre.
Théâtre, terrasse, cinéma, musée de temps en temps, mais je ne suis pas une fanatique de la visite de musées ou des expos.
Et Jean-Luc?
Moi, il y a... La musique, la danse, pour moi, c'est ça. Oui. Donc, les boîtes de nuit, même si j'ai peut-être plus l'âge, mais en tout cas,
c'est pas prévu,
la danse,
c'est
la
pas
fête.
Prévu le 19. Oui. La fête, en tout cas, vous allez la refaire en responsabilité, comme dirait Jean Castex, à partir du 19.
Avec les gestes barrières.
Avec les gestes barrières, bien entendu. Oh. Allez,
il faut du fric, Jean-Luc. Hein.
Il faut du fric, justement. Et c'est chic,
voilà.
Vous avez raison. À suivre, chers amis.
Tiens, ce que vous entendez de moins en moins en France.
Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Immortel Jean Gabin dans le film Le Président. Il est né Jean Gabin le 17 mai 1904 à Paris. On se devait de lui rendre hommage aujourd'hui, hein, Jean-Luc.
Ben, il est mort en 76, si je ne me trompe pas, et c'était vraiment un grand acteur.
Immense.
Avant d'ailleurs la Seconde Guerre mondiale, avec Michel Morgan, et puis ensuite dans d'autres rôles avec Lino Ventura et Francis Blanche et d'autres.
Ouais. On aurait pu parler par exemple, un taxi, Razzia, pardon, sur la Schnouf, le CAF se rebiffe. On aurait pu parler aussi de la Grande Évasion, Philippe Bilger.
Les grandes familles. Mais Gabin, c'était un formidable acteur et un homme que j'adorais. Et il fait partie de ces immenses acteurs dont on dit en permanence qu'ils jouent toujours de la même manière. Mais on se rend compte que les monstres sacrés, il suffit qu'ils soient eux-mêmes et ils sont très bons.
Fabuleux, Jean Gabin. Un sage en hiver, c'est votre préféré?
Oui, c'est mon préféré.
Les princes de la cuite, les seigneurs.
Exactement. Ouais, on tutoie les anges. J'adore ce film avec Belmondo, deux monstres sacrés. L'un plutôt en fin de carrière et l'autre au début de sa carrière et qui est extraordinaire. Tourné dans un petit village de Normandie, Villers-Ville.
Magnifique film.
Où il vivait d'ailleurs. Enfin, en tout cas, à côté.
Hommage à la légende du cinéma.
Et un grand roman.
Un grand roman aussi. Hommage à cette légende du cinéma français, Jean Gabin, justement, né le 17 mai en 1904. C'était à Paris. À suivre dans Les Vraies Voix, ce que vous entendez, je le disais, de moins en moins en France en ce moment. Les pleurs de bébé, à part Lydia Guirouz, qui peut-être les entend la plupart du temps quand elle rentre chez elle en ce moment, je compatis.
Parlez pas de ma vie privée.
Solidarité avec son mari.
C'est à Lydia, en tout cas, l'inquiétude du haut-commissaire au plan François Bayrou. Question, est-ce qu'on peut aider les Français à faire davantage d'enfants, à relancer la natalité? Ce sera notre grand débat à partir de 18h30. Vous votez sur le Twitter de Sud Radio. Dans quelques instants, on parlera aussi d'une autre naissance qui se fait attendre. Le vaccin français de Sanofi, si tout va bien, il sera livré avant Noël. Sanofi peut-il rattraper son retard sur ses concurrents? On en parle dans quelques minutes avec Frédéric Bizard, économiste de la santé. Mais tout de suite, le tour de table de l'actualité.
Mais on est chez les fous, là!
J'ai une intelligence et un physique très moyen.
Ah bon?
À table, il y a du sanglier qui vient d'arriver par galère.
Mais attendez, on est à la table ronde quand même, on fait pas un barbecue?
Le tour de table
de l'actualité.
Tripoter d'oseille, justement, c'est le clin d'œil d'ailleurs de Jean-Luc Touly aujourd'hui dans le tour de table de l'actualité. La France, un Eldorado, alors pas pour les milliardaires, mais pour les millionnaires.
Oui.
Jean-Luc.
Eh bien, il y a à peu près 2 millions de millionnaires en France, et ces 2 millions rassemblent près de la moitié de la richesse du patrimoine, quoi. Et donc, on peut s'étonner parce que souvent, on met en cause, et moi le premier, notamment Bernard Arnault, souvent.
Donc, les multimilliardaires.
Le troisième fortune mondiale, je crois, à 150 milliards de dollars. Donc, ça fait un peu moins en euros. Mais c'est vrai qu'on ne pouvait pas imaginer que, quand même, il y a 2 millions de personnes qui détiennent autant. Et donc, par différence, évidemment.
On parle de millionnaires, 1 million de dollars, là, pour le coup, c'est le classement de chez Forbes. 1 million de dollars, alors, soit en immobilier, soit en argent liquide, soit en patrimoine, en tout cas.
Ça veut dire indirectement que les inégalités certainement se sont accentuées, parce que ce qui est dit aussi dans cette étude, c'est que justement en 2020, pendant la période du Covid, l'évolution a été absolument phénoménale, beaucoup plus que les années précédentes. Et donc évidemment, de l'autre côté, vous avez parlé des gilets jaunes, c'est tout à fait ça, on a vraiment une distorsion, une inégalité.
Donc trop de millionnaires en France, d'après vous?
C'est difficile de dire ça comme ça, évidemment, parce que ça dépend qu'est-ce qu'on met dedans. Est-ce que on compte son appartement, son pavillon, tout de suite, on arrive vite à 1 million. En tout cas pour certains, pas pour tout le monde, on s'en fout. Mais évidemment, c'est 2 millions de personnes par rapport aux 65 autres millions. Voilà, il y a un écart, il n'y a pas de juste milieu ou d'évolution progressive avec un rétrécissement de ces inégalités. Au contraire, plus ça va, et on aurait pu penser quand même que dans cette période difficile, les choses au moins auraient stagné pour le moins. Et ça s'est accentué.
Lydia Guirouz.
Alors, est-ce que c'est des millionnaires qui sont millionnaires par leur travail ou par une transmission de richesse à travers les générations?
Ça peut être l'un ou l'autre.
Voilà, une reproduction.
c'est pas vraiment, en tout cas on n'a pas,
c'est pas indiqué dans l'étude.
Non,
c'est ça que je trouve, que ça c'est un élément qui est assez intéressant.
Il y a un chiffre qui est intéressant qui pourra peut-être vous intéresser, Philippe Bilger et Lydia Guirous. La France, c'est à peu près un peu moins de 2% de la population mondiale si on prend la population globale. En revanche, les millionnaires français représentent à peu près 4% de tous les millionnaires dans le monde, ce qui veut dire qu'en proportion, il y a beaucoup de millionnaires en France par rapport à d'autres pays.
Oui, mais on est quand même la cinquième puissance mondiale, donc ça s'explique. Et puis si vous prenez l'Afrique et d'autres pays qui sont sous-développés, je pense qu'on peut très bien le comprendre. Moi, de manière générale, je dirais que plus il y a de personnes qui sont riches, puisque c'est le cas, mieux le pays se porte. Encore faut-il que cette richesse crée des emplois et soit aussi investie et permette à d'autres
de... C'est la position du ruissellement, mais ça, le ruissellement, plus on est riche et plus ça profite à tout le monde, ça n'a pas encore été véritablement prouvé.
Philippe Bilger ?
Mais Jean-Luc, et sans ironie, ma question, vous ne croyez pas à cet adage qui dit que lorsque les riches maigrissent, les pauvres meurent?
Ah bah oui.
Je suis sérieux, hein, parce que on pourrait se demander si dans une phrase de cette nature, il n'y a pas un bon sens, non ?
Jean-Luc,
interpellé. Oui, on peut tout dire. Simplement, moi, ce que je trouve, c'est que depuis quand même la révolution industrielle, on aurait pu imaginer que le progrès profite à tous. Alors, il a profité à tous, mais on aurait pu imaginer que les tranches les plus modestes en profitent un peu plus, parce que je pense qu'aujourd'hui, ceux qui sont dans le 93, dans certaines banlieues, je ne veux pas dire que la pauvreté explique la violence, hein, je ne veux pas aller jusque-là, mais en tout cas, ça facilite certainement le désœuvrement de ces jeunes qui n'ont pas de boulot, vont à la drogue parce que c'est plus facile. Enfin, je veux dire, c'est pas qu'on va résoudre toutes les inégalités qui fera que tout le monde va vivre paisiblement, tout le monde, mais ça s'accentue. C'est ça qui me pose question. C'est que ça ne s'arrête pas. Les riches sont toujours plus riches et les pauvres sont toujours plus pauvres. C'est ça qui est problématique.
Et Louis Funès vous dirait que c'est normal, mais c'est un film humoristique, il faut aussi le dire. Un film comique, plutôt, le terme serait plus exact. Allez, la suite des vraies voix sur Radio dans quelques instants. Tiens, une réussite française qui se fait attendre. Le vaccin français de Sanofi. Si tout va bien, si les tests se terminent bien, il devrait pouvoir être livré d'ici Noël. Est-ce que Sanofi peut rattraper son retard sur ses concurrents ? On en parle avec notre invité dans un instant.
Les vraies voix Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio avec Philippe Bilger, Lydia Guirous et Jean-Luc Touly. Dans quelques instants, le grand débat des vraies voix. Peut-on aider les Français à faire davantage de bébés, à relancer leur propre natalité ? On en parlera avec un démographe, Jean-Luc Richard. Mais tout de suite, nous parlons d'une réussite française qui se fait attendre, je le disais, le vaccin français développé par Sanofi qui vient de franchir la deuxième étape de son expérimentation. Si tout se termine bien et si tout continue à ce rythme-là, on pourra avoir un vaccin Sanofi d'ici Noël prochain, avant la fin de l'année. Ça fera un an de retard pour Sanofi par rapport à ses grands concurrents comme Pfizer par exemple. Question, Sanofi peut-il rattraper son retard sur ses concurrents ? Bonsoir à vous Frédéric Bizard.
Bonsoir.
Bienvenue sur Sud Radio, économiste, président de l'Institut de la Santé. Je le disais, le vaccin français qui se fait attendre. D'abord, première question toute bête, est-ce qu'on peut parler d'un vaccin français si Sanofi en développe un ?
Pas vraiment, parce que j'entends depuis ce matin sur différentes ondes qu'il faudrait se réjouir du peut-être, on n'est qu'à la phase 2, hein, mais du succès potentiel d'un vaccin français. Mais ce vaccin n'a pas grand-chose de français, puisque c'est certes une société française, mais il a été financé par le ministère de la Santé américain, l'agence, la BARDA, qui s'occupe du développement technologique, et il est développé aux États-Unis, puisque les États-Unis veulent bien prendre des risques, mais au moins que ça bénéficie aussi à leur économie. Donc, si vous voulez, on a quand même créé un tel écosystème en France, mais on pourrait dire la France n'est pas la seule, et c'est pas lié à ce gouvernement-là, hein. C'est depuis 20 ans, on pourrait en discuter, mais on a une vraie déchéance de notre recherche médicale, et donc notre écosystème est tellement peu attractif que même une entreprise française pour développer son vaccin le fait aux États-Unis.
Et pourquoi le gouvernement américain finance, vous le dites vous-même, un vaccin d'une multinationale française, et pourquoi le gouvernement français par exemple, ou l'État français, ou alors ses soutiens, ses leviers ne le font pas ?
Alors pourquoi les États-Unis le font ? Ils le font pour une raison avant tout économique, c'est-à-dire que les États-Unis ont investi autour de 10 milliards de dollars dans les différentes technologies pour être sûr d'être les premiers à disposer de doses de vaccins efficaces et pour pouvoir relancer leur économie. Si vous voulez, il faut voir que ces 10 milliards d'investissements sont très très largement rentabilisés, sachant que les États-Unis ont été parmi les premiers à relancer leur économie. Hein, c'est près de 20 000 milliards de dollars le PIB américain. Donc, vous voyez, c'est à peu près 1,5 milliards par mois. Vous imaginez que si juste vous accélérez la reprise économique de quelques semaines, les 10 milliards d'investissements sont très très largement rentabilisés. C'est pas du tout une réflexion qu'a eu l'État français, qui a été extrêmement prudent et qui est toujours excessivement prudent, puisque en fait nous saupoudrons de l'argent public. On a investi à peu près 160 millions d'euros dans 17 projets, des projets de flaconnage, des voilà. projets. Bon, mais
et
nous
on
n'avons
pousse rien.
Absolument pas investi d'euros dans la recherche.
Dans le vaccin ou dans la recherche sur le vaccin.
C'était la République immobile, alors c'était pas en marge du tout, là.
Ça fait 20 ans qu'il n'y a pas de vision, en matière de recherche. On a désinvesti dans la recherche. C'est pas propre à ce gouvernement. Mais le gouvernement continue, la politique qui est menée depuis 20 ans, qui est d'investir à minima dans la recherche médicale. Qui fait que quand vous avez un changement de paradigme comme il y a eu, hein, on investissait 3 milliards et demi au début, début des années 2000, on est maintenant à 2 milliards et demi, alors qu'on a changé de paradigme. Avant, c'était des médicaments qui étaient à base chimique, maintenant c'est de la génomique.
C'est ça. Vous parlez de la nouvelle technologie des vaccins ARN messager. Peut-être une question de Philippe Bilger pour vous, Frédéric Bizard.
Oui, je voulais vous demander que s'est-il passé, si je ne me trompe pas, pour que Sanofi ait commencé par un échec qui créait de la déception et qu'aujourd'hui on ait cet espoir, cette réussite. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ?
Alors, c'est encore un peu tôt pour dire que c'est une réussite. On est dans la phase 2. Il y a une phase 3 qui va être en fait la dernière phase d'études cliniques qui se fait sur un très grand nombre de personnes. Donc, c'est cette phase qui est déterminante. Mais là, ce que D'accord. démontre cette phase, c'est qu'il y a une réaction immunitaire qui se produit. Donc, en principe, le vaccin potentiellement va être efficace. Alors, si on rentre un peu dans le détail, il va être efficace sur des souches qui seront peut-être plus là dans 6 mois, parce que c'est la souche de Wuhan qui n'est quasiment plus là, et puis la souche d'Afrique du Sud qui n'a pas l'air d'être dominante, en tout cas par rapport au... Bon, mais ça, c'est autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, c'est qu'il y avait eu un problème de dosage dans les... C'est pour ça que, bon, il y a eu pas mal de critiques, parce que c'est un peu une faute, excusez-moi l'expression, mais un peu une faute d'amateur pour un des leaders mondiaux du développement de vaccins. Donc il y avait eu un sous-dosage qui avait fait qu'il n'y avait pas eu de réaction. Bon, cette réaction immunitaire n'était pas apparue suffisamment forte dans dans les phases 1 et 2. Donc ils ont été obligés de recommencer.
Ils ont perdu un an.
Phase 1 et 2, ce qu'il y avait. Mais la réalité, c'est que c'est pas la technologie innovante. C'est pas la technologie la plus performante. Et c'est pour ça que je suis prudent. J'espère, comme nous tous, que ce vaccin va aller au bout et qu'il va être extrêmement utile. Mais il y a quand même peu de chances pour que ce vaccin soit compétitif par rapport aux vaccins ARN messagers qui existent.
C'est-à-dire
qui vont être. C'est-à-dire que encore une fois, vous aurez un problème d'efficacité contre les variants dominants qui vont être les variants indiens, le variant brésilien, le variant californien. C'est aujourd'hui ces variants-là qui se développent le plus en Asie. Il se trouve que le variant anglais a pas l'air d'avoir d'échappement immunitaire, en tout cas au vaccin ARN messager qui existe. Et surtout, c'est un vaccin de première génération qui va être mis sur le marché au moment où vous aurez des vaccins de deuxième génération. C'est-à-dire des vaccins qui seront probablement à monodose, à une dose, qui seront tous conservables à température ambiante, et encore une fois, qui seront plutôt dans un profil multivalent, c'est-à-dire encore une fois, qui anticipent l'apparition de nouveaux variants, et donc qui vont être beaucoup plus efficaces pour lutter contre et lutter définitivement, pas simplement pour nous permettre de vivre avec le virus, mais mettre fin à cette pandémie. Bon,
on n'y est pas.
C'est pas pour ça. Oui.
Et on n'y est pas, en tout cas. C'est ce que vous nous dites. On n'y est pas et ce n'est pas ce vaccin qui nous en sortira. Vous êtes pessimiste.
Non, mais ce n'est pas pour ça qu'il sera inutile. Hein. Dernière chose, c'est ce vaccin. Parce que quand vous avez vacciné 4 milliards de personnes à travers le monde, c'est à peu près 60% de la population adulte, vous avez besoin quand même d'une grande diversité de vaccins et vous avez besoin de beaucoup de vaccins. Et ce vaccin a un avantage, c'est qu'il a une technologie que l'on sait produire en très grande quantité parce qu'on a les capacités de production, puisque c'est la technologie utilisée pour le vaccin contre la grippe, par exemple, et pour d'autres vaccins. Donc on a les usines, ce qu'on n'avait pas pour les vaccins ARN messagers.
Et sa conservation nécessite quelque chose de particulier ?
Non.
Plus facile qu'un vaccin Moderna ou Pfizer.
Norme, hein. On sait qu'il y a eu les premières générations de vaccins qui ont posé des problèmes de conservation, mais il faut savoir que le progrès va tellement vite que ces vaccins de deuxième génération ARN messager seront conservables à température ambiante, dans des frigidaires. Donc ça ne sera plus un sujet dans quelques mois.
Vivement, en tout cas, l'arrivée de nouveaux vaccins. On verra si celui-ci marche et nous servira à quelque chose, ou peut nous servir à quelque chose.
Et que ces vaccins aillent dans les pays plusieurs sans mois. Difficulté comme l'Inde ou des pays pauvres.
Ou des pays pauvres, justement, et des pays notamment en Afrique, pour qu'on arrive enfin à enrayer surtout cette pandémie de coronavirus. Merci à vous, Frédéric Bizard, d'être intervenu sur Sud Radio, économiste président de l'Institut de la Santé. La suite des Vraies Voix sur Sud Radio. Notre grand débat dans quelques instants, est-ce qu'on peut aider les Français à faire davantage d'enfants? Comment fait-on d'ailleurs? Est-ce que ça se relance une natalité, ou est-ce qu'on regarde justement l'évolution de la courbe de la population? On en parle dans un instant avec notre invité.
Les Vraies Voix Sud Radio.
Les Vraies Voix Sud Radio avec Jean-Luc Touly, avec Lydia Guirous et Philippe Bilger. Nous accueillons notre invité, notre dernier ou presque invité, Jean-Luc Richard. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Maître de conférences en démographie à l'Université de Rennes, auteur de plusieurs ouvrages sur les migrations. Je précise par ailleurs, et ça aura son importance dans quelques instants, que vous avez travaillé au Haut Commissariat au Plan de 2000 à 2002 justement, et que vous êtes penché à la fois sur les migrations et à la fois aussi sur la natalité. On va en parler dans un instant. Est-ce qu'on peut aider les Français à faire davantage d'enfants? Est-ce qu'on peut les aider à relancer leur propre natalité? En tout cas, c'est le cri d'alarme de François Bayrou qui explique justement que les Français font de moins en moins de bébés. C'est le grand débat des Vraies Voix.
Sud Radio, les Vraies Voix. Le débat est ouvert.
Peut-on aider les Français à faire davantage d'enfants? Vous votez sur le Twitter de Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 300. Vous avez peut-être des familles nombreuses d'ailleurs. Peut-être pourrez-vous nous expliquer si c'est plus difficile dans ce pays d'avoir beaucoup d'enfants ou pas. Première question pour vous, Jean-Luc Richard. François Bayrou, haut commissaire au plan, qui constate des chiffres qui sont publics et qu'on connaît très bien. C'est-à-dire que la natalité française, qui était très longtemps la meilleure ou l'une des meilleures d'Europe, eh bien, a tendance à beaucoup baisser. 1,80 enfants à peu près, c'est difficile de le dire en comptant ainsi. Ça, c'était en 2019, alors que 10 ans plus tôt, c'était plus de 2 enfants par femme. Ça s'explique comment ?
Alors, depuis quelques années, il y a ce qu'on appelle une baisse de l'indicateur conjoncturel de fécondité. C'est cet indice qu'on peut calculer tous les ans. Et effectivement, depuis 7-8 ans, il baisse légèrement, même si on reste dans les 3 premiers pays d'Europe. Mais dans une dynamique de long terme, ce qui compte pour étudier le renouvellement d'une population, ce n'est pas l'indicateur conjoncturel de fécondité qui est sensible aux variations de la conjoncture, mais ce sont ce qu'on appelle les descendances finales des générations. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça en démographie. Donc, bien sûr, l'indicateur conjoncturel est révélateur sur la conjoncture, mais quand on regarde sur du long terme, ce n'est pas l'indicateur qu'il faut regarder, c'est la descendance finale, c'est-à-dire le nombre moyen d'enfants par femme qu'ont les femmes des générations qui arrivent en fin de vie féconde. Oui. Voir si 100 femmes arrivées à l'âge de 50 ans ont donné naissance à suffisamment d'enfants pour qu'on ait de nouveau 100 femmes en âge de procréer.
Et il donne quoi cet indicateur ?
Car c'est ça qui permet que la population soit renouvelée. Et bien actuellement, les descendances finales se maintiennent à 2 enfants par femme.
Donc pour vous, pourtant on constate tous les ans une baisse relative, en tout cas du nombre de naissances. On est à 740 et quelques mille naissances, rien que pour 2019. On sait que la crise du coronavirus n'a rien arrangé depuis. On était à plus de 800 000 quelques années auparavant. Qu'est-ce qui a changé ?
Oui, mais ça dépend des effectifs des femmes en âge de procréer.
D'accord.
Je sais que c'est très technique, c'est même très mathématique. Et le problème d'ailleurs qu'on a, nous les démographes, c'est de faire comprendre des choses simples dans les médias, alors que les indicateurs démographiques qui permettent de calculer ça sont complexes. Ensuite, il y a une deuxième chose. Pour savoir si une population se renouvelle, il y a la fécondité, mais il y a aussi les migrations.
Bien sûr.
Les calculs qui sont faits sont des modèles théoriques dans des populations sans migration. Si on intègre le fait qu'on est un pays d'immigration comme tous les pays d'Europe, alors si on a une descendance finale à 2,0 enfants par femme ou même à 1,9 enfants par femme. Avec la migration qui compense, on arrive aux 2,07 enfants par femme qui sont nécessaires pour assurer le renouvellement des générations.
Donc si je vous suis bien, en tout cas de votre point de vue, Jean-Luc Richard, soit François Bayrou compte mal et ne sait pas compter, soit il s'inquiète pour rien.
Non, parce que je partage certains aspects de son inquiétude, parce que quand un indicateur conjoncturel reste un peu trop bas pendant de nombreuses années, ça a des conséquences sur la descendance finale. Mais je vous donne un exemple. En 1993-94, la situation économique de la France était mauvaise. On avait même une récession économique avec une chute de 1% du PIB. Résultat, en 1993 et 1994, l'indicateur conjoncturel de fécondité en France était tombé à 1,65 enfants par femme. C'était son plus bas niveau de toute l'histoire. Et néanmoins, les descendances finales des femmes se sont maintenues au-dessus de 2 enfants par femme. Pourquoi ? Parce qu'on a une augmentation de l'âge moyen à la maternité qui est observé et qui continue. C'est-à-dire que tous les ans, il y a un sixième des naissances qui auraient dû se produire une année, qui ne se produisent pas parce que l'âge moyen à la maternité augmente de 2 mois par an en France en moyenne depuis plusieurs décennies.
Et ça, c'est ce qui permet à la population de continuer à augmenter mécaniquement. Dans un instant, exactement. On fera un tour au zéro.
On a toujours plus de naissances que de décès en France. On a des descendances finales qui se maintiennent à 2 enfants par femme, mais c'est vrai qu'il y a une baisse de l'indicateur conjoncturel.
Oui, c'est bien la première fois qu'on a moins de 100 000 d'un solde positif entre la natalité et la mortalité, on est à moins de 100 000. C'est la première fois. D'habitude, on était, comme disait Jean-Marie, autour de 800 000 et 500 000 morts. Oui. Là, on est plutôt à 700, un peu plus de 700 000. Donc, il y a une différence, si je ne me suis pas trompé, de 60 000 simplement.
Jean-Luc Richard.
D'accroissement.
Bien entendu, puisqu'on a eu à peu près 65 000 décès supplémentaires en 2020 en raison de l'épidémie de coronavirus. Parce que sinon, structurellement, et le rapport de François Bayrou le rappelle, à peu près entre les 2/3 et les 3/4 de l'augmentation de la population de la France s'explique par le solde naturel, c'est-à-dire la différence positive entre le nombre de naissances et le nombre de décès. On est d'ailleurs un des très rares pays où on a plus de naissances que de décès.
Dans un instant, on va faire un tour du côté de Toulouse au 0826-300-300 où Valérie nous appelle. D'où Valérie nous appelle ? Philippe Bilger.
Alors, vos observations de démographe très passionnantes, est-ce que ce serait tombé dans une sorte de banalité que de s'interroger peut-être sur des données plus subjectives ? Lorsque vous évoquez ces chiffres, est-ce que il faut reléguer, je dirais, le rapport à l'enfance de la part des parents ? Est-ce que, au fond, le bonheur de procréer disparaît ? Est-ce que le bonheur purement personnel, ou est-ce que on est très directement accordé à la politique que met un État en œuvre pour donner envie de faire des enfants rien que sur un plan matériel ?
Alors, votre question est très intéressante. Historiquement, la France est le pays d'Europe où il y a le moins de femmes qui ne font pas d'enfants. Pendant longtemps, c'était à peu près 8%. Et ces femmes qui n'avaient pas d'enfants, il y avait deux raisons. Soit elles ne réussissaient pas à en avoir pour des raisons biologiques, soit elles ne voulaient pas en avoir. Depuis 20 ans, on est arrivé à 12-13% de femmes qui n'ont pas d'enfants. Et ça s'explique désormais majoritairement parce que des femmes ne veulent pas avoir d'enfants parce que les difficultés pour en avoir ont diminué grâce aux nouvelles techniques de procréation. Donc, on a eu une augmentation du pourcentage de femmes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants en France.
Pourquoi elles ne le souhaitent pas en général, Jean-Luc Richard ?
Parce que c'est difficile parfois de concilier activité professionnelle et maternité, parentalité avec plusieurs enfants. Parce qu'en France, on n'aide pas les familles à avoir un premier enfant. J'imagine qu'on y reviendra dans notre débat dans un instant. Et puis parce qu'il y a aussi une légère montée de l'individualisme et du nombre de femmes qui ne souhaitent pas du tout avoir d'enfants.
Il y a le problème du logement peut-être aussi.
Cette augmentation, elle est réelle. Peut-être que c'est ce qui explique d'ailleurs la baisse depuis 7-8 ans d'un indicateur conjoncturel de fécondité. Néanmoins, on est à des niveaux beaucoup plus bas, hein, en termes de pourcentage de femmes qui n'ont pas d'enfants, qu'en Allemagne ou en Angleterre. En Allemagne, c'est 25% des femmes qui n'ont plus d'enfants. Nous, on était plutôt à 12-13% ces dernières années. Peut-être que ça va monter à 14-15%.
Donc, les politiques familiales...
Lydia Guirous.
Donc, les politiques familiales ont quand même un impact sur la volonté de faire des enfants ou pas. 7-8 ans, ça nous ramène... au milieu du quinquennat de François Hollande qui avait supprimé l'universalité des allocations familiales, La PAJE aussi, donc, qui était cette prime d'accueil du jeune enfant, qui aidait quand même beaucoup de ménages, puisqu'un enfant qui arrive, c'est aussi beaucoup de frais. La politique familiale, la crèche, par exemple, il n'y a pas eu d'efforts supplémentaires pour ouvrir davantage de crèches, et combien de parents se retrouvent en grande difficulté, surtout que le congé maternité, c'est 2 mois et demi, hein, lors du premier enfant. Vous retournez 2 mois et demi après la naissance de votre enfant au travail. Qu'est-ce qu'on fait de son enfant quand on n'a pas la famille à proximité? C'est une bataille incroyable pour pouvoir obtenir une place en crèche en France. Et je pense que tout ça n'est pas un terreau favorable pour encourager les jeunes couples à avoir des enfants. En plus, vous avez tout ce mouvement écologiste qui vous dit que c'est la fin du monde et donc qu'il ne faudrait pas avoir d'enfants parce que sinon, vous comprenez, vous êtes en train de tuer petit à petit la planète en méchant capitaliste occidental. Le problème de l'emploi et le logement. Le logement, il ne faut pas oublier, dans les années 60, c'était 3% du budget des ménages. Aujourd'hui, c'est quand même plus de 30% du budget des ménages. Donc tout ça, ça a quand même un impact dans la décision de faire un
enfant.
On
va en parler justement.
Et il y a un autre élément, c'est que depuis quelques années, il y a quand même un mouvement de fond, je trouve, qui consiste à dénigrer la famille. Vous êtes un énorme has-been, voire un énorme réac, si vous vous mariez, et encore, et si vous faites des enfants. Donc il y a tous ces éléments-là, mais je crois que la politique familiale impacte quand même assez fortement la décision de faire un enfant, voire un deuxième, et je pense que le différentiel avec l'Allemagne s'explique aussi par le fait qu'en Allemagne, vous n'avez pas d'accueil pour la petite enfance et beaucoup moins d'aide.
La réponse dans quelques instants de Jean-Luc Richard aux nombreux sujets que vous avez abordés, aux nombreux points que vous avez soulevés. Lydia Guiraud, j'aimerais qu'on fasse un tour du côté de Toulouse. 0826 300 300. Valérie ?
Oui,
bonsoir.
Bonjour
à vous. Bienvenue.
Bonsoir, merci.
Sur Sud Radio, nous parlions justement des difficultés en France à avoir des enfants et les élever. Est-ce que c'est difficile d'avoir plusieurs enfants, d'en avoir beaucoup par exemple, Valérie ?
Alors, moi j'en ai eu 5 et mon aîné est né en 1993.
Pardon ?
Donc, j'ai 5 enfants et mon aîné est né en 1993.
Au plus fort de la crise économique dont parlait Jean-Luc Richard, justement.
Absolument, absolument. Et c'est vrai que ça a été une galère. Je crois que j'étais enceinte de 3 mois. Je l'ai déjà inscrit à la crèche pour avoir une place.
C'est ça.
Donc, par contre, après, j'ai bénéficié d'un congé parental qui m'a permis d'élever mes 5 enfants jusqu'à l'âge de 3 ans pour la dernière.
Ouais.
Ça, c'était très bien et ça a été en partie supprimé. Et c'est lamentable parce que ça permettait aux mamans de pouvoir élever leurs enfants en gardant leur emploi, en gardant leur place dans l'entreprise. Et finalement, c'était beaucoup plus facile pour elles de reprendre un emploi quand l'enfant rentrait à l'école. Les crèches, je vous en parle même pas. Maintenant, il faut presque programmer le fait de tomber enceinte pour être sûr d'avoir une place en crèche. Ça, c'est pas du tout évident. Effectivement, le fait d'aider une politique familiale, c'est fait pour aider à accueillir l'enfant. Et on a bien vu que sous le quinquennat Hollande, ça a été peau de chagrin,
l'universalité des allocations familiales.
Des allocations familiales a été abrogée, ce qui fait que maintenant, je pense que les jeunes se posent beaucoup de questions. Moi, j'ai 3 filles, j'en ai une qui est en couple depuis plusieurs années. Elle vit en Allemagne et je vous assure qu'elle essaye de rentrer en France pour faire un enfant parce qu'elle sait qu'en Allemagne, elle va devoir abandonner son job.
C'est beaucoup plus difficile en Allemagne qu'en France.
C'est beaucoup plus difficile, absolument. Ouais. Donc, par contre, je pense aussi qu'il faut qu'on redonne de l'espoir à nos jeunes générations. Ouais. Effectivement, ce n'est pas en leur expliquant qu'on va vers le chaos écologique et climatique qu'on va leur donner envie de donner la vie. Un enfant, c'est un investissement sur l'avenir pour tout un pays. C'est pas et donc il faut absolument qu'on puisse relancer notre natalité. Et
alors, est-ce que c'est possible justement?
Le gouvernement aujourd'hui ne fait rien pour ça.
Est-ce que ça se relance la natalité? Tiens, c'est une question qu'on avait. Merci beaucoup, ma chère Valérie.
Je pense que oui. Hein. On l'a vu
on a bien
en Pologne, on l'a vu en Hongrie. On peut mettre des choses en place, mais je crois que la première chose à faire, c'est les crèches et redonner de l'espoir et remettre l'universalité des allocations. Et
ça fait un bon programme électoral. Merci, ma chère Valérie, en tout cas, de nous avoir appelé au 0826 300 300.
Et l'amour.
Vous vouliez compléter. Oui, l'amour, effectivement. Bon, ça, c'est un préalable, ça va de soi.
Philippe Vigel me
Philippe Bilger, en tout cas, sera sûrement d'accord avec
bien
vous.
Sûr,
évidemment. Jean-Luc Richard.
Il en faut avant, pendant et après.
Jean-Luc Richard, beaucoup d'aspects auxquels vous auriez à répondre, notamment ce qui a été soulevé par Lydia Guirouze d'une part et d'autre part par Valérie, la politique familiale, les allocations familiales, on y revient souvent.
Le logement. Oui.
Est-ce que ça a un impact direct sur la natalité ? Jean-Luc Richard.
Toutes les études montrent que historiquement, le système d'allocation familiale français a permis d'augmenter la fécondité de 0,1 enfant par femme sur le long terme.
Par rapport aux autres pays.
Si on n'avait pas eu les allocations familiales, on aurait eu 0,1 enfant par femme en moins en moyenne dans le pays. Donc, ça contribue à… c'est-à-dire, là, actuellement, on est à 1,8 pour l'indicateur conjoncturel, à 2 pour la descendance finale. Si on avait eu encore ces temps-ci le système historique des allocations familiales en France, on serait peut-être à 1,9 et à 2,1 enfants par femme, selon les deux indicateurs qu'on peut utiliser.
Donc, pour vous, c'est à la marge.
Donc, c'est à la marge, mais c'est pas rien, hein, 0,1 enfants par femme. Hein. C'est vrai qu'il y a eu l'abandon en 2012, à l'initiative de François Hollande, de l'universalité des allocations familiales pour le deuxième enfant, pour les ménages gagnant plus de 6 000 euros par mois. Donc, il faut relativiser parce que l'universalité, la véritable universalité, ça serait de donner des allocations familiales dès le premier enfant. Parce qu'en général, avant d'en avoir deux, il en faut un premier. Et donc, moi, je comprenais qu'on réforme le système des allocations familiales, mais je trouve que l'argent qui a été libéré par la fin de l'universalité sur le deuxième enfant, c'est-à-dire où on a diminué très sensiblement les allocations familiales pour le deuxième enfant pour les ménages très riches ou riches, au-dessus de 6 000 euros par mois de revenus, et alors on aurait pu utiliser cet argent pour donner des allocations familiales dès le premier enfant à toutes les familles. Parce qu'avant d'avoir un deuxième enfant, il en faut un premier. Et on ferait mieux d'aider les familles à avoir un premier enfant, car c'est souvent le premier enfant qui va coûter le plus cher, parce qu'il y a des dépenses liées à l'arrivée d'un enfant. Et il faut acheter des choses qui ensuite peuvent souvent servir pour l'éducation du deuxième enfant.
La poussette
Donc, moi, je serais pour une universalité des allocations familiales au niveau du premier enfant, quitte à n'aider ensuite que les ménages qui ont moins de 6 000 euros par mois, parce que moi, je ne veux pas vous mentir, ma femme et moi, on est prof de fac, on doit avoir 10 000 euros par mois pour vivre à nous deux. On nous a divisé par 4 nos allocations familiales et ça ne nous a pas empêchés de vivre. Donc, il faut relativiser. Ces ménages qui ont perdu trois quarts des allocations familiales parce qu'ils ont plus de 9 000 euros par mois de revenus, c'est pas ça qui a un effet significatif sur la natalité.
C'est pas ça qui joue.
Parce que des ménages en France qui ont plus de 9 000 euros par mois pour vivre, c'est 2%
de la
population.
Donc,
c'est pas ça qui fait baisser.
Il y a d'autres soucis.
Mais
il y a d'autres
Une question. Est-ce que les parents conservent-ils leurs enfants de plus en plus tard ? Parce qu'effectivement, on a parlé de la question du logement. Ouais. Si vous n'avez pas de logement.
Vous parlez des tanguis. Si j'ose dire, en gros, les enfants qui continuent, qui ont 25, 30 ans, qui sont chez leurs parents. Jean-Luc Richard ?
Oui. Alors, je ne sais pas si les parents se projettent à échéance de 25 ans. Plus tard, est-ce qu'on aura encore des enfants à la maison dans 25 ans ? Et je ne sais pas si c'est ça qui motive le fait qu'on ait ou qu'on n'ait pas des enfants.
En un mot, c'est quoi ce qui motive le fait d'avoir un enfant ou de ne pas en avoir tout de suite, par exemple ?
L'indépendance résidentielle, le fait de pouvoir avoir
d'avoir
un
la
logement,
place.
C'est très lié à la stabilité d'un emploi qu'on obtient. Ça, c'est essentiel.
Et le loyer.
Stabilité d'un emploi, accès à un logement à un coût raisonnable. Donc ça, c'est vraiment des éléments déterminants. Les places en crèche, les possibilités de faire garder son enfant, développer des congés parentaux pour ceux et celles qui le souhaitent. Et je dis bien ceux et celles qui le souhaitent, comme dans les pays scandinaves. On pourrait imaginer une politique qui reprendrait les meilleurs aspects des différents pays, mais on n'a pas la pire politique. On reste un des trois pays d'Europe sur 52 qui a la plus haute fécondité. Et comme on est même un des très rares pays où il y a plus de naissances que de décès, j'espère qu'on va vite retrouver nos 120 ou 130 000 naissances en plus par rapport aux décès parce qu'on aura réussi à maîtriser l'épidémie. Mais il est clair que si la situation
Vous
actuelle
êtes pas
perdurait,
si
ça serait
pessimiste.
Un peu inquiet.
Voilà, en tout cas, il faut regarder, surveiller justement l'évolution de la natalité. Merci à vous, Jean-Luc Richard, d'être intervenu ce soir dans le grand débat des vraies voix, maître de conférence en démographie à l'Université de Rennes, auteur de plusieurs ouvrages, notamment sur les migrations internes et externes. Nous vous posions cette question. Faut-il
pourrait-il aider les Français à faire davantage d'enfants? Vous répondez oui sur le Twitter de Sud Radio. À 58% d'entre vous, tiens, qu'est-ce qu'on fait pour les enfants qui sont à l'école? Quelles galères ont parfois les parents quand leurs enfants sont à l'école? Il y en a une qui va peut-être vous rappeler des souvenirs. On en parle dans un instant avec le clin d'œil des vraies voix.
Les vraies voix Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio, Philippe Bilger, Lydia Guirous, Jean-Luc Touly, Esteban Rania qui nous rejoint pour le clin d'œil des vraies voix. Le clin d'œil des vraies voix d'ailleurs qui nous emmène dans le Tarn ce soir, Esteban.
Dans le Tarn et à Castres précisément, pour aller dans un salon de coiffure un peu spécial, Marie-Andréau a créé Fripouille, le premier salon de la région qui traite les poux sur vos enfants.
Un salon de coiffure qui spécialisé dans le traitement des poux, les shampoings anti-poux, mais dans un vrai salon de coiffure pour les enfants, c'est ça?
Exactement, mais des traitements de poux de manière 100% naturelle, sans produits chimiques. Mmh. Et justement, Mamie Pou, comme on la surnomme, est avec nous en direct sur Sud Radio. Bonjour Marie.
Bonjour.
Bonjour Mamie Pou, si je puis me permettre.
Mamie Pou, expliquez-nous comment le concept de votre salon vous est venu à l'idée.
Alors, j'ai découvert ça moi, il y a 3 ans à Montpellier, parce que ça existe déjà dans les grandes villes. Ça n'existe, enfin, personne ne s'était tenté à le faire dans une petite ville et dans le Tarn. Et je vous entendais dire, un salon de coiffure, en fait, on ne coiffe pas. Mmh. Voilà. On n'utilise aucun produit. Mmh. On procède que mécaniquement. Les poux sont aspirés, les lentes sont retirées au peigne fin et ce qui reste, qui n'est pas parti au peigne, est retiré à la loupe et avec des doigts.
Souvenir d'écolier que je suis, effectivement. On est tous plus ou moins passés par là autour de cette table, hein, dans les vraies voix, Jean-Luc Touly.
Avec
Guirous.
Avec les cheveux longs que j'ai, oui.
On y a tous eu droit, je pense, Esteban.
Et comment vous faites pour que ça soit 100% naturel?
On ne pratique que un traitement mécanique. Voilà.
Donc tout à la main.
Les poux sont d'abord aspirés. Et les lentes retirées à la main. Et c'est la seule façon d'en venir à bout. Parce que si vous avez des souvenirs d'écoliers, ce n'était pas les mêmes poux que maintenant.
Oui. J'ai peut-être une question pour vous, ma chère. Comment se fait-il qu'on ait l'impression que les poux ne s'attaquent qu'aux enfants? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est à l'école qu'on a ça et que ça ne nous arrive plus jamais dans la vie plus tard?
Alors, parce qu'en fait, le poux, c'est une question de comportement. Il ne vole pas, il ne saute pas. Le seul moyen d'attraper, c'est le contact. Voilà. Donc, les enfants sont plus tactiles que les adultes.
Oui. Et vous passez combien de temps par personne?
Ça dépend en fait de la longueur des cheveux. Ça va de 45 minutes à 1h30 pour des cheveux.
Donc il faut des enfants qui soient très calmes et très patients. Ça ne peut pas être à n'importe quel âge, je pense.
Mon plus petit client jusqu'à maintenant avait 14 mois.
14 mois déjà des poux.
Et oui, il y en a dans les crèches. Ben, les grands frères et les grandes sœurs les ramènent du primaire. Il y a câlin à la maison et ça repart à la crèche.
C'est incroyable, voilà. N'empêche. Mais écoutez, on vous souhaite, je pense que vous rendez service à beaucoup de parents parce que la corvée du shampoing anti-poux à la maison, tout le monde s'en souvient. Aucun enfant n'aime ça si en plus vous le faites avec le sourire. Merci à vous, Marie-Andréau.
Avec plaisir.
Pour vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio, qui êtes dans le Tarn, peut-être vous cherchez un salon justement pour retirer les poux de vos petites têtes blondes, en tout cas des tignasses de vos petites têtes blondes, ben passez-y, pensez à Mamie Pou, Marie-Andréau. Merci à vous d'être intervenu dans les vraies voix Sud Radio. Merci Esteban Rania.
Avec plaisir.
Pour ce clin d'œil, on vous retrouve demain en direct de 17h à 19h sur Sud Radio, en compagnie de Philippe Bilger, émission spéciale sur la justice. Est-ce que les peines de justice sont exécutées en France? On verra bien avec une responsable d'un syndicat de magistrats que ce n'est pas du tout le cas. Merci Lydia Guirous.
Merci à vous.
D'être intervenue ce soir. On rappelle votre ouvrage justement, L'assimilation.
En finir avec ce tabou français.
C'est publié aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous Jean-Luc Touly également, ancien syndicaliste et président du Front Républicain d'Intervention contre la Corruption. La suite de votre soirée à l'écoute de Sud Radio dans un instant. Les vraies voix qui font bouger la France. On parle des voix de la politique avec Nicolas Corato et Guillaume Bigot. On va parler des régionales. Est-ce qu'elles vont déterminer le vainqueur de la présidentielle? À tout de suite.